Donc bonsoir à toutes et à tous. Bonsoir aux étudiants qui sont là, nombreuses et nombreux. Et évidemment, bonsoir à Christian Ingrao, hein, qui vient ce soir donc présenter son livre sur Hitler. Alors présenter son livre, le livre qu'il a coécrit avec Johan Chapoutot, que peut-être, ou peut-être sûrement, vous avez vu au Festival de Pessac qui vient de se terminer ces derniers jours et qui donc est retourné dans ses pénates. Alors pour la présentation, bon, moi je m'appelle Nicolas Patin, je suis maître de conf en histoire contemporaine à l'Université de Bordeaux-Montaigne. Je suis donc la puissance accueillante, ce qui tient finalement un peu d'une mise en scène, puisqu'avec Christian on se connaît depuis très longtemps, donc j'accueille en même temps...
Date les choses.
depuis 2003. Et donc je l'accueille en tant qu'ami, et puis évidemment pour le débat ce soir, à la librairie Mola. Alors pour parler... de ce livre-là, évidemment, cette biographie d'Hitler au PUF qui vient de sortir. Mais auparavant, je vais évidemment présenter le parcours de Christian, qui est déjà vaste, pour pas dire ancien, et bien rempli, puisque Christian Ingrao est chercheur au CNRS. On lui accole souvent le titre de ancien directeur de l'IHTP, l'Institut d'Histoire du Temps Présent, ce qu'il a occupé, mais bon, c'est déjà de l'histoire ancienne. Et c'est surtout, je dois dire, le précurseur dans l'historiographie française, d'une certaine manière, de regarder le nazisme et les politiques de destruction du nazisme avec un angle assez particulier qui, sans avoir fondé une sorte d'école française du nazisme quand même, ça y ressemble, et qui consisterait à s'interroger sur l'imaginaire nazi, sur les catégories de pensée qui permettent par la suite, d'expliquer les actes. Et déjà, à ce moment-là, ça pose une question qui est qu'on ne peut plus, cette question, on va la poser ce soir, hein, on ne peut pas rejeter le nazisme dans une simple déviance, dans une simple folie, où les acteurs se seraient livrés à une forme de barbarie sans aucune signification. Et Christian, à travers ses différents ouvrages, a essayé de montrer qu'au contraire, il y avait des logiques, il y avait des motivations, et... dans le corpus qu'il a étudié, notamment des juristes, qu'il y avait clairement des intellectuels nazis. Alors la plupart des livres que vous pourrez retrouver tout à l'heure sur la table qui est derrière vous, voilà, émaillent une carrière de recherche. D'abord, alors dans l'ordre chronologique de publication, mais qui n'était pas l'ordre d'écriture de ces recherches-là, mais la brigade d'Irlwanger, les chasseurs noirs, hein, sur une brigade particulièrement meurtrière, qui a été créé dans le mi-temps de la Seconde Guerre mondiale. Par la suite, sa thèse de doctorat, qui s'appelait « Croire et détruire » et qui s'intéressait à 80 juristes et intellectuels nazis, qui a été donc publié il y a quelques années. Et puis, pour le coup, son habilitation, sortie il y a 2 ou 3 ans, qui s'intitule « La promesse de l'Est » et qui s'intéresse toujours pour pousser cette problématique des imaginaires nazis qui nous dérangent, qui nous posent énormément de questions, cet HDR sur, finalement, comment les nazis imaginaient un projet positif de colonisation à l'Est, sous le nom d'espace vital, mais qui, en fait, recouvrait des formes extrêmement variées et qu'on avait présenté, d'ailleurs, au Café historique, ici, si vous en souvenez, au Plana, à la Victoire. Je t'avais dit de ne pas casser le matériel.
Oui. Excuse.
Alors, aujourd'hui, au Plana, place de la Victoire, qui est le lieu, la brasserie, si on veut dire, du Café historique, sans mauvais jeu de mots. Aujourd'hui, un livre qui a déclenché une petite polémique sur laquelle je vais revenir, un livre qui fait 212 pages et qui, si vous voulez, affrontant le personnage central du nazisme, mais pas uniquement, quasiment le personnage central du XXe siècle. Je me souviens que la revue Historia avait fait ce qu'elle savait faire, c'est-à-dire une sorte d'élection, un numéro spécial sur les hommes qui avaient changé le XXe siècle. Pas les femmes, hein, je vous rassure, il n'y avait pas de problème de ce point de vue-là. Et je me souviens qu'Hitler était arrivé premier, évidemment, comme la personne négative, monstrueuse, qui avait façonné ce XXe siècle. Et il faut le répéter, affronter une biographie d'Hitler en tant que chercheur et en tant qu'écrivain, c'est pas un acte anodin, c'est un acte qui a pour conséquence des prises de position polémiques, Et même quand on le fait en cours, hein, j'en parle souvent avec mes étudiants, tout de suite, une sorte d'affrontement sur des mythes, sur des légendes à démonter, sur l'ensemble des choses qu'a pu charrier l'historiographie sur Hitler comme personnage. Donc le livre est sorti il y a maintenant à la rentrée. Je le dis assez rapidement, il a eu, peut-être vous le savez, un article relativement négatif, et ça n'engage que moi, on verra ce qu'en dit l'auteur, mais j'ai trouvé que les remarques, on pourra en discuter par la suite, étaient nulles et non avenues, pour plein de raisons. Mais aujourd'hui, on est là avant tout pour expliquer la démarche de ce livre-là, comme d'habitude dans nos soirées chez Mola, à travers un certain nombre de questions qui vont nous prendre 40-45 minutes. Et puis ensuite, vous serez évidemment, sur un tel sujet, autorisé à poser toutes les questions qui vous passent par la tête, d'autant plus qu'on a Christian pour y répondre. Alors, pour commencer, moi, la première question que je voulais te poser, c'était de dire, par rapport à ce parcours de recherche que je viens de montrer, un parcours de recherche qui, finalement, on peut se le dire, avait peut-être pas croisé Hitler une seule fois dans les archives. Ouais. Je veux dire, dans les dizaines d'années que tu as passées sur ces sujets-là, il est très possible d'aller à Ludwigsburg, à Berlin, sans jamais croiser la figure d'Hitler du point de vue archivistique, parce que, tout simplement, le Troisième Reich est un, si ce n'est un continent, au moins un Léviathan. Hein, et donc... Moi, la question que ça m'a posée par rapport à te connaissant bien, c'est finalement, pourquoi ce livre sur Hitler ? Pourquoi choisir à ce moment-là de ta carrière, et au moment de la carrière de Johann Chapoutot, je ne le présente plus, mais je peux le faire quand même en 5 minutes, vas-y, puisqu'il est absent, Johann Chapoutot qui, dans ton sillage, a aussi... Oui, bah, quand même.
Ensemble.
Zusammen. Ah, mais a aussi, lui, mené son sillon de chercheur sur une histoire de l'idéologie nazie, sur une histoire de la culture nazie au sens large, à travers un certain nombre d'ouvrages publiés soit chez Gallimard, comme « La loi du sang » en 2014, ou la révolution culturelle nazie en 2017, et un certain nombre d'ouvrages, notamment récents, chez Talandier, comme « Comprendre le nazisme ». Johann Chapoutot, lui, travaille aussi cette espèce de cartographie mentale, pour le coup. Toi, tu es dans les pratiques, d'une certaine manière, et lui, il est dans les textes fondateurs, dont Mein Kampf n'est vraiment pas le principal. Et Johann a poursuivi son propre sillon d'histoire de ce qu'il appelle la littérature grise nazie, c'est-à-dire des dizaines et des dizaines de textes, d'intellectuels, de chercheurs, d'historiens, de géographes, d'archéologues nazis, hein, qui ont aidé à construire le soubassement idéologique du régime. Donc tous les deux, d'une certaine manière, vous étiez peut-être pas les premiers de qui on attendait un livre sur Hitler. Donc, est-ce que tu peux nous parler de ça, de pourquoi, à ce moment-là, dans vos deux parcours de recherche, affronter le personnage ?
C'est une question intéressante que tu poses, Nicolas. On a choisi de travailler sur Hitler sur une fenêtre complètement opportuniste. C'est-à-dire que... Johann s'est vu proposer par les PUF de faire une biographie d'Hitler et il n'avait pas envie de la faire tout seul. Et donc un jour il est venu chez moi et il m'a dit Christian, est-ce qu'on ferait pas un petit Hitler ensemble ? Ça ne mange pas de pain. On va d'abord l'enregistrer puis après est venu le livre, etc. C'est vrai. Je lui dis écoute, d'accord, mais je pense que notre Hitler ne sera pas un Hitler. Et c'est un peu ce qui s'est passé, c'est-à-dire que comme tu l'as un peu dit, Hitler disparaît très vite dans ce petit livre. C'est un petit livre parce que c'est un petit livre parce que c'est pas un livre qui a été destiné aux savants, c'est pas un livre qui a été destiné aux historiens. Il y a trois énormes biographies qui font chacune plus de 1000 pages et qui feront toujours les choses bien mieux que nous, et avec d'autres thèses que celles que nous avons défendues. Mais moi et Johann et moi, on avait comme désir de faire un petit livre qui permettrait, en partant d'Hitler, d'arriver au Troisième Reich, et puis d'arriver à l'Europe. C'est-à-dire de partir du personnage Hitler dans les premiers chapitres, puis de montrer comment Hitler était, quelle était la place d'Hitler dans la constellation qu'est le Troisième Reich, et puis ensuite montrer quelle était la place du Troisième Reich dans la constellation qu'est l'Europe en guerre. Donc c'est comme ça que ça s'est mis en place. Alors évidemment, là tout de suite, je suis en train de vous le montrer, de vous le raconter avec une espèce de cohérence comme ça, hyper rationnelle. Évidemment, tout ça s'est fait au milieu de sandwichs, de d'emploi du temps complètement débordé. La cohérence de notre démarche, elle est celle-ci, que on s'est dit. Il est possible de livrer un texte un peu ramassé, resserré, à un public un peu élargi, tout en essayant de résumer dans ces 210 ou 220 pages, je ne sais plus combien il y en a exactement, d'essayer de résumer ce qui avait changé dans la façon dont les historiens appréhendaient Hitler, le nazisme et l'Europe en guerre depuis la sortie de la biographie de Yann Kershaw. En gros, c'est ça le pari. Alors tu l'as annoncé tout à l'heure. Il y a eu un article assez polémique. Évidemment, quand on essaye de faire ça, quand on essaye de résumer, je sais pas moi, 100 ou 200 livres, c'est à peu près ça qu'on essaye de faire dans 200 pages, c'est-à-dire une page par livre. Et je vous promets qu'il y a des pages qui sont vraiment pas, il y a pas de livre dedans. Hein, quand t'es en train de dire que Hitler est né à Braunau-sur-Inn qu'il a considéré que être né là était une chance pour les questions frontalières, tu es pas en train de résumer l'historiographie. Mais on a essayé comme ça de condenser 20 années d'historiographie et donc on est très allusif. Il y a plein de moments où on l'est. Et donc, oui, en effet, il y a un article du Monde qui nous est tombé dessus. Il n'a pas tort. Il n'a pas tort. C'est vrai qu'on peut lire le livre comme ça et adopter un ton un peu péremptoire et se dire que oui, en effet, on aurait peut-être dû mettre telle date. Mais en même temps, nous avons essayé, je crois, de montrer que depuis 20 ans, l'histoire sociale du nazisme avait mis de l'eau dans son vin, commencé à regarder comment les questions de contraintes pouvaient s'être accouplées à d'autres questions beaucoup plus gênantes sur la question de l'attractivité du système, l'attractivité du nazisme, et que il allait falloir essayer de composer tout ça et de refaire un kaléidoscope. Et donc on s'est retrouvé, si vous voulez, à écrire un livre ensemble et dans le même temps à accepter qu'on était dans un mode qui pour des spécialistes est un mode allusif. Voilà. Pour des gens qui, pour mes étudiants de troisième année, voilà, le livre il convient plutôt pas mal, je crois, et ce d'autant, si vous voulez, qu'il est suivi d'un cours dans lequel je les matraque d'une chronologie assez importante, hein, évidemment.
Alors ça, on y reviendra dans la dernière question que j'ai préparée, c'est-à-dire qu'effectivement, là, dans les allusions qu'on peut faire. La critique scientifique a ses réseaux. Hein. Quand on publie des livres de scientifiques, on va avoir ce qu'on appelle des recensions, des personnes qui vont critiquer. Et selon d'ailleurs, en France, on a tendance à un peu ménager ces critiques, alors qu'en Allemagne,
oui,
on ne les ménage pas. C'est vrai qu'il y a toujours cette question que je voulais introduire, de dire comment faire la critique scientifique, même si, oui, il y a des erreurs, il y a des problèmes, comme dans n'importe quel livre, dans un ouvrage de 200 pages qui, finalement, est un ouvrage de synthèse envers un public. Et du coup, c'est ma deuxième question. Je fais une toute petite chronologie, si d'aventure l'envie vous en prend. On considère qu'aujourd'hui, il y a 12 000 biographies d'Hitler. Je vais en retenir 5. Qui sont les 5 canoniques. La première est complètement oubliée, c'est la biographie de Konrad Hayden, qui sort dès les années 30, et qui est un peu une première pierre posée dans cette étude de la trajectoire d'Hitler, alors qu'il est encore vivant. Et puis souvent, on va en retenir 3. On va retenir la première biographie d'Alan Bullock dans les années 50, celle de Joachim Fest un peu plus tard, et puis, tu viens de le citer, la biographie Monument de Yann Kershaw, 2000 pages, premier volume 800, deuxième 1200, publié en 97 et puis en France entre 99 et 2000 chez Flammarion, qui a posé, si vous voulez, c'est une sorte d'œuvre indépassable. On ne veut pas que les œuvres soient indépassables, on a envie qu'elles soient dépassées, mais là, pour le coup, il a fait silence derrière lui. Et cette biographie, elle était organisée autour de la notion de charisme, c'est-à-dire du lien qui unissait Hitler à la population allemande, dans une espèce d'étude interactionniste. Et puis il y a eu silence, à peine, j'ai envie de dire, à peine brusqué par le mauvais livre de Laurence Ries, hein, qui a été publié en 2008-2009, tant mieux pour toi si tu ne l'as pas lu, qui était en fait un... adoubé par Yann Kershaw, mais qui était une relecture du truc en moins bien. Bon. Et puis, sur les quatre dernières années, dans le sillage aussi, je crois, de la publication de Mein Kampf en français, qui est tombée dans le domaine public en Allemagne le 1er janvier 2016, on a eu trois biographies importantes. Celle de Wolfram Pitta, qui n'est pas traduite en français, qui est vraiment très intéressante, 950 pages. Celle de Volker Ulrich, traduite en français, qui, à mon goût, n'est pas intéressante, mais c'est mon avis, qui essaye de lier son... Il y a un postulat qui essaie de lier la vie privée d'Hitler, sur lesquelles il y a eu des découvertes considérables ces dernières années, notamment la découverte des vidéos de Eva Braun perdues au Berghof à l'Obersalzberg, la première youtubeuse beauté du monde. Hein. Si vous avez vu les vidéos, ça y ressemble quand même pas mal. Et puis surtout, la biographie de Peter Langerich, hein, qui est un des plus grands spécialistes du nazisme, qui aligne des petites perles, hein, c'est-à-dire après une carrière déjà bien, bien entamée, a fait une biographie d'Himmler, très très bonne, une biographie de Goebbels, pas très bonne, mais ça reste encore mon avis, parce qu'elle est une sorte de décalque du journal de Goebbels, et puis une biographie d'Hitler. Alors vous voyez que quand on arrive dans ce territoire-là, on n'est pas tout seul. Et donc, ma question est toute bête, puisque la biographie de Volker Ulrich, celle de Kershaw ou celle de Langerich sont traduites en français, qu'est-ce que vous, vous apportez? Est-ce que c'est cette synthèse? Est-ce que c'est une sorte de résumé?
Alors, y a, à mon avis, la réponse, elle peut être qu'à deux étages. La première, c'est que nous ne pouvons pas prétendre... nous comparer aux quatre dernières que tu viens de citer, c'est-à-dire ni Kershaw, ni Ulrich, ni Langerich, et il m'en manque une dernière, je ne me rappelle plus laquelle.
Volker Ulrich ?
Non, Volker Ulrich, je le dis.
Pitta, Wolfram Pitta.
Pitta, oui, c'est ça. Et donc, nous ne pouvons pas. Nous avons pris 210 pages, ils en prennent 5 fois plus, ils mettent des notes de bas de page, ils ont été voir des archives. Nous travaillons avec nos bases empiriques à nous. Ça, c'est une première chose. La deuxième chose, c'est que, par contre, nous nous inscrivons dans l'époque dans laquelle nous sommes. C'est-à-dire que Yann Kershaw, c'est une biographie absolument structuraliste. C'est-à-dire qu'il ne veut pas dire les mêmes choses que Hans Mommsen, qui disait que Hitler était un dictateur faible, que l'idéologie était une somme d'idées reçues, etc. Il y a vraiment quelque chose qui est très mécaniciste chez Mommsen. Et Kershaw est un représentant beaucoup plus modéré, mais très talentueux, de cette idée que Hitler s'inscrit au fond dans un état qui fonctionne comme un cancer. Hein, et qui envoie des métastases un peu partout. Et Hitler... envoie par ces métastases des pulsions radicalisantes. Ce système, il fonctionne, à mon sens, très bien. Mais Kershaw a publié il y a 18 ans et tout un certain nombre de preuves de ce qu'il est en train de raconter a été sorti par tous ces gens que nous connaissons bien maintenant et qui font des thèses très positivistes sur qu'est-ce qui se passe en Lituanie, en Lettonie, en Biélorussie, etc., etc., et qui montrent bien comment les choses peuvent se mettre en place. Mais bon, voilà, il y a 20 ans qui sont passés et donc on peut, si ce n'est réécrire l'histoire, du moins rajouter un petit étage à la fusée. Les autres biographies me semblent à la fois très intéressantes, mais ont manqué, me semble-t-il, de reprendre les choses de ce type-là. Il y a une espèce de sociologie de la distinction qui se fait chez les trois autres qui font que je ne les ai pas lues avec la même bienveillance.
là, en même temps, enfin, évidemment... Ce qu'il faut considérer, c'est que, par exemple, depuis Kershaw, il y a aussi, tu parles effectivement de ces monographies locales, régionales, mais il y a aussi un certain nombre de livres que peut-être vous connaissez, hein, qui sont sortis, y compris sur la focale très resserrée d'Adolf Hitler, ont apporté énormément. Hein. Ouais. Le livre de Brigitte Hamann sur Hitler à Vienne, dans les années du début 20e. Le livre de Thomas Weber sur Hitler durant la Première Guerre mondiale. Le livre de Otmar Plöckinger, les deux livres dont j'ai parlé sont traduits en français, mais le livre de Otmar Plöckinger, sur la période de 1918-1920 d'Hitler, hein, qui montre que l'antisémitisme d'Hitler naît à ce moment-là, et pas avant la Première Guerre mondiale. Donc il y a eu des découvertes scientifiques importantes qui justifient, à mon œil, une remise à jour.
La réécriture du début, oui. Mais au fond, on est quand même un peu tous d'accord pour dire que, tu vois, il y en a un peu ras-le-bol des biographies qui veulent expliquer le tout par sa genèse. C'est-à-dire que ce qui est intéressant à la fois chez Longerich, parce qu'il a une thèse, et chez Kershaw, c'est qu'il ne lâche pas Hitler, ils essaient de le remettre, chacun à sa manière, dans les grandes décisions qui vont être prises entre 39 et 44, quoi. Et ça, c'est quelque chose que je pense qu'il faut discuter un peu.
Eh bien, c'est l'objet après ces deux questions de présentation, de trois questions précises, là, pour le coup, qui sont évoquées dans le livre. Enfin, la première est plus une question de positionnement, et aussi pour nos auditeurs ici. Je pense que rien que dans ce qu'on vient de dire dans ces premières 20 minutes, il y a quelque chose qui peut éventuellement vous choquer, qui est que le nazisme, on a l'impression de savoir ce que c'est, comme je disais au départ, une folie, une déviance. Hitler était fou, psychotique, végétarien, au choix. Et on a cette difficulté, y compris quand on fait cours, à penser à un Hitler politique. Et du coup, j'aimerais bien que tu me dises, mais assez rapidement, voilà, pourquoi il y a cette tendance, quand on parle du nazisme, et en particulier d'Hitler, a toujours rejeté les choses dans la psychologie, dans les problèmes éventuels, les failles, etc., sur l'homme comme marginal, et sur le système comme fuite insensée vers la mort.
Pour moi, il y a deux... Eh ben, c'est hyper intéressant que tu poses la question comme ça, parce que tu la poses vraiment bien. C'est-à-dire que pour moi, il y a deux couches de rejet. Il y a une première couche qui est une couche hegelienne, idéaliste, etc., qui correspond à choquer l'université allemande jusque dans les années 50, c'est-à-dire que... Les hommes font l'histoire et ils savent qu'ils la font. Hein. C'est contraire à Marx. Hein. Marx dit les hommes savent qu'ils font l'histoire et ne savent pas qu'ils la font. Mais chez Hegel, les grands hommes ont une idée et cette idée va être l'incarnation du réel. Et c'est un peu comme ça que jusqu'à Joachim Fest et jusqu'aux intentionnalistes, on pense les choses. Et donc, à ce moment-là, hein, les livres de Hegel, de Fest, etc., sont vraiment des décalques de cette théorie du totalitarisme dans laquelle le pouvoir, ça fonctionne un peu comme une... Vous savez, ces pyramides de coupe de champagne qui existe dans les fêtes un peu kitsch, dans lesquelles on verse dans la première, et puis c'est un peu le pouvoir, etc., et puis ça va jusqu'à la dernière. En gros, si vous voulez, il y a quelque chose qui est de l'ordre de la magie et de la manipulation, qui émane d'Hitler, et qui fait que la société allemande a été saisie et transportée dans cette catastrophe nationale qu'a été le nazisme, la guerre et le génocide. En gros, ça va de Gerhard Ritter jusqu'à Eberhard Hegel. Et donc, vous avez une première... couche d'explication qui est celle-ci. Tous ces gens sont de vénérables professeurs des universités allemandes. Ils ont été biberonnés à l'alma mater allemande, c'est-à-dire qu'ils savent ce que c'est qu'un verbe semi-déponent. Ils peuvent vous réciter du latin et du grec comme ça. Ils parlent mieux le grec que Périclès. Et en même temps, ils ont fait de l'histoire. Donc, vous voyez, il y a une espèce d'ensemble culturel cohérent qui fait que ces gens pensent comme ça. Mais dans les années 50, ces mêmes gens qui détiennent tous les postes de pouvoir dans les universités se disent « Ouais, le monde ne fonctionne plus comme ça, il va falloir qu'on réforme ce qu'est l'université allemande. » Et commencent à réformer les parcours. Enfin, c'est moi qui appelle ça comme ça. Ils disent jamais ça comme ça. Hein. Mais les maquettes, exactement. Et ils commencent à mettre en place des démarches intellectuelles dans lesquelles on ne fait plus du latin et du grec, mais on fait de la sociologie et de la science politique. Et nombre de leurs étudiants qui se sont parfois engagés dans les mouvements étudiants des années 60, mais biberonnent, si vous voulez, l'histoire du nazisme avec ce nouveau paradigme, hein, en se disant, au lieu de faire d'une histoire hegelienne, on va aller voir Talcott Parson ou Max Weber, etc., etc. Et vous avez une deuxième école qui va naître, une école qui est une école plutôt à gauche, qu'on appelle les fonctionnalistes ou les structuralistes. Aucun des deux termes ne fonctionne bien. Enfin, c'est l'équivalent en allemand et en France. En allemand, les deux termes fonctionnaliste et structuraliste ne correspondent absolument pas à ce que sont un fonctionnaliste ou un structuraliste en français. Donc, on va les garder. C'est l'équivalent allemand que je suis en train d'utiliser. Donc, c'est une histoire sociale des grands agrégats avec des gens qui sont en train de regarder, parce qu'il y a une révolution archivistique aussi, qui sont en train de regarder comment fonctionne l'État et qui s'aperçoivent bien que le rôle d'Hitler a tendance à s'écorner, à se racornir même plutôt, à devenir plus compliqué à regarder, les impulsions qu'il donne sont moins importantes que l'on pensait dans la première école, et qui se demande ce qui s'est passé. Alors évidemment, ces gens sont des sociodémocrates. Hein, sont des bons professeurs sociodémocrates. Quand on est professeur en Allemagne, on est assez bourgeois, on gagne bien sa vie, on est dans des milieux qui sont des milieux très, très respectables. Et donc, qu'un nazi puisse penser, c'est compliqué. C'est compliqué parce que, ben, pour eux, un nazi, c'est un SA, c'est, avec une grande batte de baseball, t'es un crâne rasé, etc. etc. Donc, vous voyez, il y a quelque chose qui est de l'ordre du mélange entre des études qui sont très serrées, très importantes, et du préjugé. Les nazis ne peuvent pas penser, donc le nazisme est, comme le disait Hans Mommsen, un catalogue d'idées reçues, et en gros, ils sont en train de découvrir des dynamiques étatiques qui sont de l'ordre de l'expansion sans objet, et un Hitler perdu dedans. Et donc, le même Hans Mommsen arrive à nous dire que Hitler est un dictateur faible. On en arrive à ça, et c'est Yann Kershaw qui, en utilisant un sociologue qui s'appelle Max Weber, va essayer de redonner une dynamique cohérente à tout ça, en utilisant la question du charisme. Le charisme, c'est quoi ? C'est pas toi qui es responsable de ce que pensent les gens de toi. C'est tu deviens un chef et tu deviens le chef absolu parce que les gens veulent que tu le sois. Et donc, dans le charisme, ce qui compte, c'est pas tellement les vertus intrinsèques d'Hitler, mais celles que ses militants espèrent qu'il ait. Et Kershaw nous montre de façon extrêmement convaincante comment tout ça fonctionne jusqu'à à peu près en mars-avril 1945, c'est-à-dire jusqu'à sa mort. Voilà. Et donc, c'est ça qui s'est passé dans ces deux versions, et on voit bien que dans les deux versions, d'un côté, on a une question de magie, de manipulation, de l'autre, on a une question d'état sans objet, etc., etc., mais jamais on va travailler la question de la cohérence interne entre, d'un côté, l'idéologie, les discours et le monde extérieur, et de l'autre, les discours et les pratiques.
Et donc, La question, vous voyez, le débat est borné, il a été posé comme tel dans un autre bouquin de Kershaw dont on parle beaucoup ce soir, et c'est normal, c'est quelqu'un de fondateur, ou dans un petit livre qui s'appelle « Qu'est-ce que le nazisme ?», qui était une synthèse de conférence, il posait cette question, Hitler, maître du Troisième Reich, maître absolu, ou dictateur faible ? Alors je pense qu'ici, en tout cas, je m'avance hein, peut-être, vous nous contredirez au moment des questions, j'ai plutôt l'impression que, en tout cas, on a l'impression qu'Hitler contrôlait tout, qu'Hitler ordonnait tout, que peut-être, et vous avez le droit de le penser, même si c'est pas totalement vrai, qu'Hitler a donné un ordre écrit de décision de la solution finale. Et donc, pour revenir au livre, ce qui est intéressant dans la lecture, même en 200 pages, on voit très bien, c'est comme ce serait une tragédie grecque, mais en deux actes. Il y a les 100 premières pages où Hitler est là, Hitler est présent. Vous faites, alors comme on se connaît bien, je sais que vous avez écrit ce qu'il fallait écrire. Il est né là, son père faisait ça, puis il aimait bien sa maman, etc. Mais on est obligé d'en passer par là pour comprendre le personnage. Et ce qui est étonnant et ce qui est ambitieux, et vous l'avez défendu dans votre interview aux Un Rock, c'est que finalement, passer, que je vous encourage à lire parce qu'elle est très synthétique et chouette, à partir de la page 100, Hitler disparaît. C'est-à-dire que quasiment au moment de la prise du pouvoir, nous, on penserait que c'est le moment où il a les manettes, où il dirige tout, et que, comme tu dis, avec cette allégorie assez drôle des fêtes de coupe de champagne, la coupe de champagne Goebbels, ministre de la propagande, dirigerait et maîtriserait le cinéma, le théâtre, la presse, etc. Et qu'on aurait une sorte de, voilà, de j'ai envie de dire, de théorie du ruissellement politique. C'est là, ça me vient là, mais je m'excuse pour cette métaphore.
C'est exactement voilà, bon. Ça.
Et donc, j'ai envie que tu te positionnes. Il disparaît dans vos 100 dernières pages. Est-ce que ça veut dire que, de dictateur faible, vous poussez le bouchon jusqu'à quasiment dictateur absent ?
Non, on ne fait pas ça parce que, d'un autre côté, on est parfaitement conscient, et je pense qu'on l'a dit, je ne suis pas sûr qu'on l'ait dit clairement, mais on l'a dit, que toutes les impulsions radicalisantes fondamentales viennent de lui. C'est-à-dire que en septembre 39, il nous explique qu'il veut réorganiser la relation interethnique en Europe. Ça veut dire que là, à partir de ce moment-là, il met en place une énorme vague de déplacement de population qui ne s'arrêtera qu'en 1953, même après sa mort. C'est-à-dire que ça pète comme ça. Pareil, le 12 décembre 1941, il a décidé que, c'est une décision de principe, que les Juifs d'Europe avaient vocation à être exterminés. Ce type de décision, il faut bien regarder ce que c'est. C'est-à-dire que le type raconte ça, il donne aucun moyen, il désigne personne, mais il pose un cadre qui est une sorte d'horizon d'attente. C'est Florent Barrière qui a bien montré ça, hein, qui parle des questions de catégorie de temps. Et c'est lui qui... C'est Florent qui a bien montré que le rôle d'Hitler, c'est ça. Il fixe des objectifs, et après, les acteurs doivent s'en saisir et donner des horizons temporels. Et donc, il est à la fois à l'origine de tout, et en même temps, il ne fait pas grand-chose. Voilà. Je crois que c'est comme ça qu'on peut définir les choses, et cette façon de définir les choses, elle a quand même un énorme avantage, c'est qu'elle permet de rendre compte de la dynamique charismatique, c'est-à-dire que les acteurs s'approprient, ou plus, et même plus que ça, c'est que la façon de le voir comme ça permet à la fois de montrer comment ça fonctionne de façon charismatique, et ça permet aussi de reprendre les concepts d'Alf Lütke et de l'Alltagsgeschichte sur la Neid, donc, c'est-à-dire l'appropriation des choses. Hein, comment des acteurs utilisent leur marge de manœuvre après avoir intégré un objectif, décidé ce qu'ils allaient en faire, et soit aller dans le zèle le plus total, soit dans l'inertie, soit dans la résistance. Et je pense que la façon de d'expliquer les choses comme ça est peut-être la moins improductive.
Et donc vous voyez que ça remet en cause hein, un certain nombre, ce genre de choses. Ça prend du temps de passer un certain nombre de découvertes, y compris dans l'historiographie allemande, auprès du public français. Alors vous voyez, là, on balance des noms à tout va, beaucoup, c'est pas un reproche, je le fais aussi, hein, dont la plupart ne sont pas traduits en français, c'est parce qu'il y a un temps de latence extrêmement fort, et que cette image-là d'un Hitler zénital...
Ça, c'est une belle expression, bravo. Ouais. Ouais, je la connaissais pas.
Je l'invente là, je n'ai jamais pensé. C'est mes études de cartographie. Mais, et qui ensuite va avoir une sorte d'appropriation sur le terrain, mais très variée, selon que vous êtes en Pologne, selon que vous êtes en Biélorussie, selon que vous êtes en France, etc. etc. Et du coup, c'est un peu ma troisième question précise, pour se concentrer plus seulement d'ailleurs sur la question de l'appareil d'État dans les années... 33-39, j'ai envie de dire les années régulières, mais qui sont évidemment des années irrégulières, criminelles, que Saul Friedlander a bien séparé entre années de persécution puis années d'extermination, et donc de se centrer sur le processus de destruction des Juifs d'Europe, qui, je le rappelle, hein, malheureusement, d'une certaine manière, est un succès, puisque Raoul Hilberg, dans son livre fondateur, estimait que 73% des Juifs d'Europe ont été détruits par la politique d'Adolf Hitler. Du coup, ma question, j'y viens, toi qui es un spécialiste du local, toi qui es un spécialiste de ce qui se passe sur le terrain, avec la brigade d'Irlwanger en Biélorussie, entre autres, avec la promesse de l'Est en Pologne, à Zamość, sur les territoires de Pologne occupés, comment est-ce que tu articules ça ? C'est-à-dire, quelle est la place du centre que serait Hitler et des périphéries ? Est-ce que tout descend d'en haut ? Est-ce qu'il y a, notamment dans la question des Einsatzgruppen, donc des groupes de tuerie mobile qui commencent à intervenir en 1941, avec derrière les rangs de l'opération Barbarossa, est-ce que c'est des ordres d'Hitler ? Est-ce que ça vient d'en bas ? Comment ça se joue dans ces différents endroits ?
C'est la question, elle est très compliquée, parce que d'abord, il faut essayer de montrer qu'on a un continuum, on a un double continuum. On a un continuum hiérarchique, et on a un continuum temporel. Le continuum hiérarchique qui fait que Hitler et là, très peu. Mais qu'il y a des personnages clés, comme Herbert Backe, Heinrich Himmler. Herbert Backe, c'est le ministre de l'Agriculture et du Ravitaillement. On a Heinrich Himmler, qui est très important. On a Hermann Göring, qui est très important parce qu'il tient toutes les ficelles de l'économie. On a Alfred Rosenberg, qui est très important parce qu'il va tenir tous les territoires occupés. Bref, on a une petite constellation de 5 à 6 personnages qui sont fondamentaux pour comprendre les décisions telles qu'elles vont s'agencer. Ça, c'est le niveau central. Après, on a des niveaux locaux où on a une autre constellation de personnes, Hans Frank pour le gouvernement général, la Pologne non intégrée, des personnages comme Erich Koch, qui est le chef de l'administration civile en Ukraine, et puis tout un tas de représentants d'Himmler dans des territoires occupés, Erich von Embarcelewski en Biélorussie, comment il s'appelle, Friedrich Jeckeln d'abord en Ukraine et ensuite dans les États baltes. Enfin, bref, on a toute une constellation de gens, et vous voyez, c'est pas centre-périphérie, c'est tout ça, tout ça est hybride. C'est-à-dire que les chefs suprêmes de la police et des SS dont j'étais en train de vous parler pour l'Ukraine, ils vont tout le temps à Berlin. Himmler, il a un document extraordinaire qui est son agenda de rendez-vous pour 1941-42. Himmler, il est tout le temps dans un train, tout le temps dans un avion, et il sillonne l'Europe. Donc, le centre, la périphérie, ça n'a pas tant de sens que ça. Le seul qui soit le roi caché, comme disait Lucien Goldman, c'est Hitler. Hein ? Et on s'aperçoit de quoi ? C'est que Hitler, il donne un premier ordre en 1939, dans lequel il dit qu'il faut réorganiser les relations interethniques en Europe. Et puis, on le revoit pratiquement plus dans la question des ordres, jusqu'en décembre 1941. Évidemment, quand on prend le journal d'Himmler, il le voit toutes les semaines. Et donc, ça circule. Mais ça circule pas par l'écrit. Ça circule par le téléphone, ça circule par les entrevues, les Vorträge, comme on dit, les exposés que fait Himmler. Et Himmler, il est là, dans son carnet, il fait comme un étudiant de Cagne. Hein. Il a un plan en 3 parties, et tac, et quoi, c'est vraiment... C'est hyper carré. Donc, Hitler, il a une place... il est à la fois le centre radicalisant. C'est-à-dire qu'il envoie des pulsions, et puis un an plus tard, deux ans plus tard, on en voit les résultats. Hein, en décembre 1941, Hitler dit à Himmler que maintenant, désormais, l'option de la solution finale à la question juive, c'est une option d'extermination directe. Hein, c'est plus laisser mourir, c'est tuer. Mais par contre, c'est Himmler qui décide comment les choses se font. Et c'est Himmler qui décide comment les choses se font, parce que Himmler est le seul à maîtriser le dossier. À savoir que d'un côté, les Juifs ont commencé à mourir de faim dans les ghettos polonais, qu'en second lieu, il y a deux programmes qui sont en train de se mettre en place depuis novembre 1941 et qui consistent à tuer des contingents limités de Juifs polonais, les uns dans les territoires incorporés autour de Łódź et de Poznań, l'autre dans le gouvernement général avec ce qui va devenir les grands camps de Bezek, Sobibor, Treblinka, et puis les autres initiatives qui ont été prises en URSS, ce sont les Einsatzgruppen qui, depuis août 1941, tuent des femmes et des enfants, et en Serbie, où l'administration militaire, sous supervision SS, est en train de tuer les femmes et les enfants serbes sous prétexte de lutte contre les partisans. Et donc, vous voyez bien, je ne suis même pas sûr que vous rappeliez ce que j'ai dit il y a 3 minutes sur le gouvernement général. Évidemment, on en est tous là. Hein. On a mis des années à essayer de comprendre ce kaléidoscope qu'est l'Europe à ce moment-là. Et encore plus des années à comprendre que ce n'est pas le problème d'Hitler. Hitler, lui, il a dit « Ok, on y va, vous le faites ». Hein, et il a une rhétorique pour le faire, et les acteurs disent on y va. La grande difficulté de la chose, c'est que ici, ce qui est important, c'est plus Hitler. Hitler, il a dit le 12 décembre 1941 qu'il fallait les tuer. Mais après, il faut qu'on voit comment les gens font. Pourquoi est-ce que c'est un projet auquel les gens ont adhéré ? Pourquoi est-ce qu'il y a 100 000 personnes qui se sont. Qui ont d'abord broyé leurs âmes, parce que tuer des femmes et des enfants, ça broie les âmes, merde. Comment les gens se sont mis à adhérer à ce projet ? Quelles sont les rhétoriques de légitimation qui se mettent en place ? Est-ce qu'elles viennent d'Hitler ? Est-ce qu'elles ne viennent pas d'Hitler ? Comment est-ce que tout un corps d'État s'est mis à penser à ces choses-là. Et c'est comme ça, si vous voulez, que s'est mis en place ce projet, ce petit Hitler, qui résout pas de problème, mais qui essaye de rendre compte, si vous voulez, du fait que l'enjeu désormais, c'est pas tellement Hitler, c'est l'interface entre Hitler et le social d'abord, l'Europe ensuite. Comment est-ce que d'abord s'est mis en place quelque chose qui est de l'ordre d'une société nazie, que Hitler a inspiré, mais qui a été diffusé par un ensemble un peu composite qui mélange de l'État et du parti, de l'État et de la militance, de ce que Weber appelait de la rationalité. Comment il disait déjà? De la légalité rationnelle avec du militantisme. Comment tout ça se met en place? Et en second lieu, comment à partir de 1939 se mettent en place des politiques qui vont se révéler absolument désastreuses pour l'Europe, On est en train de parler de 6 millions de Juifs qui ont été tués, mais 2 500 000 prisonniers soviétiques qui l'ont été, 13 millions... il faudrait remettre les Juifs dedans, mais 13 millions de civils soviétiques qui l'ont été aussi. Ce qui s'est passé à ce moment-là est un désastre, mais comme l'Europe n'en avait pas connu depuis 1348. Et ce désastre-là, par contre, contrairement à 1348, c'est un désastre qui a été voulu par toute une société. Ou plutôt, pas tout à fait comme par toute une société, mais par une des parties les plus prégnantes de cette société. C'est cette histoire qu'on essaie de raconter. Parce que quand on fait une biographie d'Hitler et quand on travaille sur le nazisme, on a quand même un énorme problème. Le 22 juin 1944, la moitié des soldats qui doivent mourir dans la Seconde Guerre mondiale du côté allemand sont encore en vie. Ce jour-là, débute l'offensive Bagration, c'est-à-dire l'offensive qui fait que les Russes vont annihiler complètement le groupe d'armées centre, le groupe principal du front de l'Est, et faire 250 000 soldats allemands prisonniers. Objectivement, 5 jours plus tard, la guerre est perdue. Tout le monde le sait, ou tout le monde peut le savoir. Et pourtant, vous avez 2 600 000 soldats allemands qui vont mourir. On peut toujours me dire que, oui, il y avait des tribunaux volants, qu'on en a pendu quelques-uns, etc. Il n'en reste pas moins que ce dont on s'aperçoit, c'est que, les pertes soviétiques ne baissent jamais. Les Allemands continuent à en tuer de façon absolument frénétique. Et deux, à partir du moment où on atteint les frontières du Reich, les gens meurent, mais les soldats de cette armée du désespoir nazi qui est la Wehrmacht à ce moment-là meurent à tour de bras. Nous devons essayer d'expliquer cette dynamique-là. Cette dynamique ne joue pas avec la contrainte. Vous avez 2 500 000 soldats qui sont là. Vous avez, allez, au bas mot, 20 à 30 000 SS un peu fanatiques et qui veulent se mettre à pendre des gamins pour désertion. Mais je vous rappelle qu'en 1917, quand l'armée du Tsar veut déserter, vous avez des bandes de déserteurs qui sont ces 100 000 déserteurs qui prennent Smolensk, etc. Quand une armée ne veut pas combattre, elle ne combat pas. Et bien celle-ci, non seulement elle n'a jamais dit qu'elle ne voulait pas combattre, mais en plus elle s'est fait tuer sur place. Et ça, c'est un des mystères du nazisme, et c'est une des choses qu'il faut essayer de régler par... qu'on a essayé de toucher, pas de régler, mais de toucher par cette biographie d'Hitler.
Au passage, juste pour corroborer ce que tu viens de dire, l'ensemble des fusillés de la Première Guerre mondiale en France, c'est 620 fusillés. Et vous savez qu'aujourd'hui, il y a ce débat toujours de savoir si ces fusillés qui sont des fusillés symboliques, qui sont fusillés devant leur régiment, il y a un dispositif. Est-ce que c'est ça qui fait la contrainte? Est-ce que c'est ça qui fait tenir les 8 millions de soldats français? Pour ce qui est des nazis, dans la dernière période dont vient de parler Christian, c'est 25 000 fusillés. Mais comme tu le dis, ça ne suffit pas à tenir des gens. Et donc, ça me permet d'avancer tranquillement vers la conclusion, puisque vous montrez, qu'il y a des formes d'adhésion. C'est-à-dire que dans la guerre, mais même avant la guerre, une bonne partie des Allemands, et j'ai envie de dire une bonne partie des Européens, ont cru au projet nazi, et tu le disais, en ces murs, mais dans la salle qui est en bas, quand tu as présenté la promesse de l'Est. Finalement, le projet de destruction des Juifs d'Europe, ben, il a pu faire consensus dans certaines zones, que ce soit en Ukraine, en Pologne, en Biélorussie, et c'est terrible de regarder ça. Et ça met aussi Hitler à sa... –
Peut-être aux Pays-Bas aussi.
– Et peut-être aux Pays-Bas. Les Pays-Bas sont considérés comme l'exception européenne, on appelle ça l'exception hollandaise, puisque 100% des Juifs ont été détruits dans ce pays-là. Donc il y a pas que Hitler. Et c'est vrai que dans le livre, alors qu'on soit clair, on peut vous le reprocher, ou d'ailleurs on peut vous poser un défi de dire mais finalement vous avez dissous Hitler dans une histoire globale du Troisième Reich, donc faites une histoire du Troisième Reich, bon voilà. Mais cette question de l'adhésion, vous le montrez aussi dans un chapitre là, qui revient un petit peu chronologiquement dans les années 30, où vous montrez que le régime n'aurait pas pu tenir si... il n'y avait pas eu aussi ce que, pour faire de la provoque, tu appelles le Caire nazi, hein, c'est-à-dire une sorte d'État-providence qui se serait mis en place. Et ça, c'est très important. Et avant de passer à la question suivante, hein, je souligne qu'effectivement, dans les documentaires qu'on a pu voir au festival du film de Pessac la semaine dernière, il y avait un documentaire qui s'appelait « Ma vie dans l'Allemagne d'Hitler » qui montrait ça, qui montrait cette structure d'adhésion dont tu estimes que, non seulement dans les structures sociales, mais dans l'idée qu'elle développait, elle a pu avoir des conséquences jusque tard dans la guerre, hein, qui expliquent que les Allemands ont continué à tenir et à soutenir Hitler. Alors pour terminer, dans les 5 minutes qui nous restent, et ensuite on laissera vraiment du temps pour les questions, parce que on sait d'expérience qu'il y a toujours beaucoup de questions, toutes légitimes, y compris sur le régime alimentaire d'Hitler, son rapport à sa mère et le reste. Mais je voudrais décaler le regard. C'est pas un secret, et ça m'amuse de le dire, mais tu as fait non pas un passage télé, mais 2 passages télé remarqués. Alors, j'ai pas la télé, mais je crois que ça s'appelle Le Quotidien, c'est ça, de Yann Barthès. Alors, c'est pas pour t'encenser, hein, c'était des passages remarqués par ta verve et ta chevelure.
Surtout ma chevelure.
Hirsute.
Surtout ma chevelure, oui.
Mais je voudrais en profiter, parce qu'il y a quand même un certain nombre d'étudiants ici, pour te poser la question, y compris qui se pose ce soir, qu'est-ce que c'est ? Quand on est chercheur CNRS, et que le chercheur CNRS, on sait ce que c'est un être qui est aux archives. Non, il n'est pas forcément bègue, mais il est aux archives. Il a parfois du mal à mettre en pédagogie ses découvertes scientifiques.
Ça, c'est sûr.
Qu'est-ce que c'est ce qu'on appelle aujourd'hui l'émergence de l'histoire publique ? Alors, le terme n'est pas encore beaucoup passé en français. C'est un terme qui vient avant tout du Canada, public history. La place de l'historien hors de ses amphis. La place de l'historien hors de ses livres. Et toi, entre les passages télé, les conférences que tu fais, comment tu te positionnes là-dessus ? Comment tu fais cette histoire publique ?
Alors, moi, je viens d'un laboratoire qui s'appelle l'Institut d'Histoire du Temps Présent et non pas perdu, messieurs, dames, je vous remercie. Dans ce laboratoire, on réfléchit depuis une bonne vingtaine... Ils réfléchissent depuis une bonne vingtaine d'années à cette question de la place de l'historien dans la cité. Vous rappelez qu'il y a eu, dans les années 90-95, des procès en France, procès Papon, procès Barbie, il m'en manque un, procès Touvier, ah oui, procès Touvier, etc., etc. Moi, j'étais très jeune à ce moment-là, mais les historiens de ce laboratoire se sont énormément posés de questions sur la question de ce qu'on appelle la demande sociale, c'est-à-dire qu'est-ce que tu fais quand quelqu'un qui n'est pas historien vient te demander de faire ton métier d'historien ailleurs que dans les archives, dans des salles de classe, des conférences, etc., etc. C'est une question qui a beaucoup divisé les gens. Moi, j'avoue que j'ai pas très très bien compris leur débat. Le débat qui a eu lieu entre Marc-Olivier Baruch et Henri Rousseau, l'un qui allait devenir un expert au procès Papon, l'autre qui a dit « non, j'irai pas, je vous emmerde ». Enfin, il n'a pas dit « je vous emmerde », mais vous voyez, il a dit le reste. J'ai pas bien compris ce qui se passait à ce moment-là, j'ai pas compris les enjeux. Juste, Henri m'a expliqué ensuite que la question qui faisait qu'il avait refusé, c'était qu'il aurait voulu contrôler les questions du juge. C'est-à-dire que, pour lui, un historien doit contrôler ses interrogations. Bon. Ça, je comprends parfaitement. Moi, ma démarche, elle a été beaucoup plus empirique. J'ai un maître qui s'appelle Stefano Doinrouzeau. Un jour, j'avais écrit un texte qui était, je ne sais pas ce qu'il valait, mais en tout cas, j'avais été frappé par un truc. On était en quelle année ? On devait être en 2011 ? Non, en 2001.
Un peu pareil.
On devait être en 2001, et c'était On était le 16 août 2001, et si vous voulez, c'était le jour anniversaire de la tuerie de Rokiskis. C'est la première grande tuerie dans laquelle les Einsatzgruppen, l'Einsatzgruppe A, tuent massivement des femmes et des enfants. Et moi, je voyais des gens qui étaient, on était le 16 août 1941, et je voyais des gens en train de se faire griller à grands coups de d'huile solaire sur des plages. Et moi, j'avais dans la tête, ce massacre-là. Et donc, j'ai écrit un texte, où étions-nous le 16 août 2001, etc. Puis j'ai envoyé ce texte-là à mon maître en lui disant, maître, est-ce que je le publie, est-ce que je le publie pas? Et il m'a dit, écoutez Christian, non, le faites pas. Hein, un historien, ça intervient sur le premier marché. Le premier marché, c'est ta spécialité. Tu vas dans les médias, tu vas dans les firmes, tu vas n'importe où, mais tu parles que de ce que tu connais. Et ce que tu connais, c'est le nazisme et la violence de guerre, c'est tout ce que je connais, moi. Le reste, je peux pas. Et donc, c'est devenu ma ligne directrice. Donc, à chaque fois qu'on me demande si Hitler est monorchide, c'est pas mon domaine. J'ai jamais touché les couilles d'Hitler, et donc je peux pas faire. Je sais pas s'il l'est. Par contre, quand on me demande quelle est son articulation avec la solution finale, là, j'ai travaillé, et je peux dire. Donc, mon inscription dans l'espace public, c'est une inscription de spécialiste et presque rien d'autre. Voilà.
Ce qui, je pense, comme mot de conclusion, nous éviterait, si tout le monde s'en tenait là, moi le premier, je pense qu'on éviterait de dire des parfois,
non, mais
le moins possible des grosses bêtises.
Non, mais le problème, c'est qu'évidemment, c'est une ligne qui est très, très dure à tenir, parce qu'il y a plein de fois où on t'appelle, tu sais pas, là pour revenir au dernier appel des gens du quotidien hier ou avant-hier, non, hier, je sais plus, on s'en fiche, on est mardi, donc c'était lundi, je savais pas quelle était la frontière de ce qu'ils voulaient. Ils m'ont dit, on voudrait que tu travailles sur la peste brune, mais c'était aussi, j'étais pas à l'abri d'avoir une question sur les gilets jaunes. Or, je voulais rien dire sur les gilets jaunes, je connais rien. J'ai pas de voiture, j'ai pas de gilet jaune.
Enfin, moi, j'ai un vélo et j'ai un gilet... Non, j'ai pas de gilet jaune non plus. Merci, Christian, pour cette conclusion massive. Merci. À bientôt.